Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, c'est l'anniversaire d'Émilie Dez. Et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. C'est également son anniversaire. À suivre, Je redeviens sérieux, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invitée, la chanteuse Sylvie Vartan, pour son nouvel album Merci pour le regard. Très joli titre. On parlera d'une tournée. Et puis Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant sa célébrité. Et puis Marc-Antoine Lebray, évidemment, pour clore l'émission. Bonjour Guillaume Bénèche.
Bonjour Philippe.
Bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique et hier, vous avez passé, m'avez-vous dit, votre journée à décortiquer l'ensemble des journaux télévisés. Vous en êtes arrivé à la conclusion suivante, les JT obéissent à des injonctions contradictoires.
Oui, ça n'a probablement pas échappé à l'amateur de paradoxe que vous êtes, Philippe. Les journaux télévisés poursuivent deux buts principaux. D'un côté, ils entendent coller à nos préoccupations quotidiennes et de l'autre, ils veulent nous faire rêver. Or, ces deux ambitions ne font pas toujours très bon ménage, je vous raconte. Hier, les JT étaient en boucle sur l'augmentation des prix. France 2 s'est émue de celle du pain.
Ne soyez pas surpris de voir le prix de votre baguette augmenter dans les prochains jours.
Comme TF1.
Plus 10 centimes sur la baguette.
TF1 qui, après le Bricheton, a dégainé un autre sujet consommation parce que...
Il n'y a pas que la baguette qui augmente, c'est le cas également des jouets.
Une information ludique qui n'a pas échappé à France 3.
Et votre budget jouet pourrait lui aussi augmenter à deux mois de Noël. On constate une hausse du prix des jouets les plus volumineux.
Pas plus qu'à France 2 qui a bien remarqué qu'en plus du pain et des jouets...
Depuis un an, les œufs ont déjà augmenté de 3,4%. Les pâtes, 2,9%. Pire pour les légumes et fruits, plus 5%.
Une précision qui a même conduit la chaîne à carrément dépêcher une équipe de grands reporters auprès de la spécialiste de la question. Vous la connaissez, Philippe. C'est celle qu'on interviewe systématiquement sur un coin de trottoir. En pareille circonstance, la célèbre Madame Tout-le-Monde,
oui,
dont l'analyse fut une nouvelle fois sans appel.
Tout augmente alors, qu'est-ce que vous voulez ?
Voilà, et puisque tout augmente, la brave dame, les JT ont donc pris une décision, nous donner un coup de main. Et c'est ainsi qu'hier, M6 a balancé une grande nouveauté.
Cette semaine, nous vous proposons une série de reportages autour du pouvoir d'achat, des astuces pour dépenser malin.
Bon, une nouveauté toutefois déjà observée lundi dernier sur TF1.
Tous les soirs cette semaine, nous allons vous donner des conseils et des astuces pour faire baisser vos factures.
Bon, alors je vous vois frétiller, Philippe. Hélas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Pas la peine de vous ruer sur tous les JT de la semaine dernière en espérant y dénicher des sources secrètes d'économie. En fait, les combines étaient... pas dingue. On a appris par exemple un truc dont on se doutait quand même déjà un peu. Figurez-vous que quand on n'a plus d'oseille, il vaut mieux
louer plutôt qu'acheter.
Voilà. Bon, bref, vous l'avez compris, hier, les JT étaient à fond sur le pouvoir d'achat et leur ambition était donc d'accompagner nos fins de mois difficiles. Voilà donc pour la première des injonctions. Le hic, c'est qu'elle est venue se télescoper, que dis-je, se fracasser sur leur seconde préoccupation qui consiste à nous vendre aussi du rêve. Car juste après avoir compati avec nos comptes en banque tristement maigrichons et censé se paupériser à vue d'œil, devinez un peu à quoi TF1 s'est intéressé.
Savez-vous quel est le pays d'Europe qui compte le plus de piscines privées ? Eh bien oui, c'est la France.
Eh oui, aux piscines qui seraient, paraît-il, une passion française.
Une pour 38 habitants et la demande n'a jamais été aussi forte.
Et qui coûte bonbon.
Et les budgets s'envolent. Comptez 40 000 euros en moyenne pour une piscine sur mesure.
Très étonnant journaux télévisés qui nous explique donc à 20h05 que nous sommes dans le pétrin, à 20h10 que le prix de la baguette va croustiller de 5 centimes et que c'est un énorme problème, avant de nous dire très tranquillement dès 20h15 que nous sommes des millions à dépenser 40 000 euros en moyenne pour nager dans le bonheur.
Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. Guillaume Bénèche, je vois sourire. Le programme de votre indispensable ce matin, ce sera aux alentours de 10h30.
Alors on va parler de musiciens qui aiment beaucoup le rock'n'roll mais qui aiment aussi parfois la justice. Et vous verrez, c'est passionnant.
Vous ne pensez pas plutôt que c'est la justice qui s'intéresse à eux ?
Ah !
On va voir. Dans un instant, Sylvie Vartan, on va parler avec elle de son nouvel album dont on écoute tout de suite un titre. Ça s'appelle Les Vents Contraires et c'est sur Europe 1. Sylvie Vartan.
Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Une dernière balade dans la baie, le dernier refrain de l'été. L'hôtel l'air ne voit fermer, l'océan loin se retirer. Ta bouche sur ma peau n'ira plus, ta main dans la mienne s'est perdue. sourires insouciants se sont tus. Je m'en vais comme je suis venu. Et dans les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires, moi je ferme les yeux et je pense à toi. Et dans les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires, moi je ferme les yeux et je pense à toi. Éphémère, ton parfum flotte encore dans l'air, immobile sous le belvédère. Je pleure nos amours passagères. Et dans les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires, moi je ferme les yeux et je pense à toi. Et dans les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires, moi je ferme les yeux et je pense à toi. Droit vers l'horizon j'ai marché, pas une fois je me suis retourné. Le vent doucement s'est levé et les immortels ont fané dans l'arrière-saison désertée de cette ville où je t'ai aimé. Et dans les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires, moi je ferme les yeux et je pense à toi. Et dans les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires, moi je ferme les yeux et je pense à toi. Moi je pense à toi, oui je pense à toi.
Bonjour Sylvie Vartan.
Bonjour.
Est-ce qu'on vous présente ? Non, vous êtes Sylvie Vartan. Juste trois chiffres, 35 millions au moins d'albums vendus dans le monde entier, 60 ans de scène, et vous venez de sortir votre 50e album studio. Il s'appelle Merci pour le regard, dont on vient d'entendre le single Les vents contraires. Double actualité, parce qu'il y aura également une tournée en France qui va passer par la salle Playel le 20 novembre. On va en parler, mais d'abord l'album. C'est votre premier album studio depuis 2011. Pourquoi autant d'attentes ? Vous n'aviez plus envie, vous n'aviez pas les chansons ?
Non, j'avais fait quand même deux albums live entre-temps, deux spectacles au Rex, et donc ça m'avait pris toute mon attention. Et c'est vrai que quand on n'est pas auteur-compositeur soi-même, il faut trouver les chansons qui aient l'envie des textes, des musiques, etc. C'est un travail de longue haleine. Et c'est vrai que je n'avais pas le temps parce que j'avais d'autres casseroles sur le feu, si on peut dire comme ça. Des spectacles. Et moi, c'est vrai que je prends beaucoup de temps pour penser et créer mes nouvelles envies de spectacles et de concerts.
Alors justement, cet album-là, écrit et composé par une sacrée liste de noms, je vous laisse les dire, moi je les ai tous notés, ceux que vous aurez oubliés, je les ai ici avec moi.
Ah, je ne peux pas les oublier, parce que c'est vrai que j'ai été très gâtée, tout s'est agencé d'une manière, je ne sais pas, tout à fait, avec beaucoup de chance, avec beaucoup de rencontres nouvelles, effectivement, et qui ont collé dans l'idée que je me faisais de mon nouveau récital. Donc, évidemment, il y a les incontournables, c'est-à-dire Éric Chemouny, qui a écrit de très belles chansons pour moi tout au long des dernières années, et qui me connaît bien. Donc, je suis en terrain inconnu.
Ouais.
Ensuite, évidemment, Dave et Patrick Loiseau, qui m'ont composé une très belle
chanson. Oui,
qui ont des amis également. Et puis aussi, beaucoup de nouveaux venus, comme Joseph Danvers, qui a... qui a composé et écrit Les Vents Contraires, une chanson qui m'est arrivée tout de suite et que j'ai aimée d'emblée. C'était un coup de cœur immédiat.
Alors, puisqu'on en parle et qu'on vient de l'entendre, comment ça se passe ? C'est vous qui appelez ? Ce sont des jeunes auteurs
qui
vous proposent
jamais,
des rôles ?
Ah non, j'appelle jamais, moi, justement.
Comment se font les 10 ? Parce que vous, quand vous dites une rencontre, vous ne les croisez pas en bas de la rue.
Non, c'est ça. Non, mais évidemment, j'ai un directeur musical, artistique, qui est Philippe Rousseau, et avec lequel je travaille déjà de nombreuses années, puisqu'on a fait le disque de Nashville ensemble, on aime les mêmes musiques, et c'est vraiment un frère à tout point de vue. Et donc, il m'a aidé également Éric Chemouni, qui est vraiment dans...
Et c'est eux qui font, si j'ose dire, le go-between, qui vous mettent en relation avec les auteurs.
C'est-à-dire que c'est eux qui ont eu, je ne sais pas, les gens qui les ont appelés et qui ont pensé à certaines personnes. Mmh. Et ils s'est trouvé...
Et ensuite, est-ce qu'il y a un cahier des charges ? Est-ce que vous dites, j'aurais une chanson sur tel thème ? Voici
non.
De quoi j'aurais parlé ou...
Non, je leur laisse le choix pour voir ce qui les inspire sur le moment, par rapport à ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, justement. Et ça, c'est plus difficile, déjà. Et donc, c'est vrai que ça a été des coups de cœur à chaque fois. Et honnêtement. Et c'est la première fois que je rassemble autant de chansons avec des nouveaux auteurs qui ne me connaissent pas, en fait.
Et on n'a pas encore cité Clara Luciani.
Non, mais on ne fait que commencer.
On ne fait que commencer.
Donc je disais Dave Loiseau, et puis Joseph Danvers, et puis Léonard Lasserie, avec Elisa Point, qui ont composé... 5 chansons, quand même, c'est fou de trouver 5 chansons, paroles et musique, qui me plaisent. Ça n'arrive jamais, honnêtement.
Ah bon ? Attendez, ça m'intéresse, parce que vous êtes très difficile.
Bah, je ne sais pas si je suis difficile, peut-être, mais il faut dire que j'ai chanté beaucoup, de choses, beaucoup de thèmes, et qu'on s'est toujours inspiré de ma vie. Et donc, les gens qui ne me connaissent pas forcément ne tombent pas juste... sur les paroles, les sentiments que j'ai envie d'exprimer. Mais là, ça s'est passé miraculeusement, j'avoue.
Ça parle beaucoup d'amour.
Ensuite, Clarica, c'est une des chansons aussi qui m'est arrivée tout de suite et que j'ai aimée d'emblée. Une chanson d'espoir, dans la même veine que La Maritza, mais écrite différemment, avec beaucoup d'originalité, de sentiments, et j'ai appris...
J'ai oublié le titre, mais c'est celle qui ouvre l'album.
Oui, exactement. Voilà,
à la description, je me suis dit, tiens, on dirait La Maritza.
Mais c'est... Ah oui, c'est vrai, mais voilà.
Où ça parle du bleu de la mer et de...
Hein, ouais. Ça n'a pas. C'est une autre façon de parler de justement du déracinement, de l'exil, de la résilience, du courage, etc. Beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus originale, beaucoup plus nouvelle et moins classique, je dirais. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai appris, ben, justement, en la connaissant un peu mieux, qu'elle était, qu'elle avait un papa hongrois. Alors, moi, j'ai ma mère qui est hongroise.
Ça, je sais.
Je sais pas. Il y a eu une connexion comme ça. Et ensuite, Clara, justement, ouais. qui a eu cette bonne idée de m'écrire une chanson. Bon, elle est arrivée comme un cadeau, je le dis maintenant.
C'est
fois.
Quelle chanson ? Parce que moi, je vais être franc avec vous, je n'avais pas les notes de pochette. Donc, je ne savais pas qui avait écrit quoi. Je me dis, tiens, je vais
elle
demander à Sylvie.
Elle a écrit « À deux pas de vous ».
Ah ben voilà.
J'aime beaucoup le titre, déjà. Mmh. Et la chanson est vraiment formidable, tout à fait cadre, tout à fait dans le spectacle que j'avais rêvé.
Et la grande Sophie, on l'a pas citée encore.
Ah oui, la grande Sophie, qui a écrit déjà pour moi précédemment et qui a fait une chanson également très originale qui me plaît beaucoup. Et puis également.
Alors j'ai la liste.
Oui,
on
oui,
a
non.
oublié de citer Christophe Cazenave,
oui,
Michel Ohayon
on a cité.
Et Michel Amselem. J'avais tout noté et
oui,
je vous suivais en même temps.
Moi, c'est pour les musiques, oui, magnifiques, qui collent parfaitement aux paroles et.
Voilà, et vous parliez de votre enfance. On va mieux vous connaître, Sylvie Vartan. Tant est qu'on puisse mieux vous connaître, parce que vous êtes quand même très, très, très connue. C'est Lisa Marie Marquez qui va arriver. C'est le portrait pré-fame de l'invité. Vous qui parlez très, très bien anglais, pré-fame, c'est avant la fame. C'est tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant sa célébrité. C'est dans un instant dans Culture Média.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média, vous avez bien raison, nous sommes en compagnie de Sylvie Vartan, on parle de son nouvel album Merci pour le regard. On va mieux vous connaître, Sylvie, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Sylvie Vartan.
Bonjour.
Vous êtes l'idole des années yéyé pour toujours. Vous avez vendu des millions d'albums, tourné dans le monde entier et traversé les décennies. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va remonter les étapes de votre tourbillon de vie, une vie de roman qu'on va rembobiner pour revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Sylvie Vartan, vous êtes née en Bulgarie, vous y passez les premières années de votre enfance, une vie paisible et pleine d'amour. Il y a la maison de votre grand-père qui vous fait découvrir la musique. Il vous chante une chanson en français, même si vous ne le parlez pas encore, une chanson de Charles Trenet.
Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas, souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là. La lune est là.
À Sofia, vous allez voir des comédies musicales. Vous êtes enfant et vous vous rêvez artiste. À l'âge de 6 ans, vous jouez dans un film réalisé par un ami de votre père, Sous le Joug. C'est une révélation, vous voulez devenir comédienne. Mais la situation en Bulgarie se dégrade. Le quotidien devient de plus en plus difficile et vos parents décident de quitter le pays pour la France. Par chance, c'est là que votre père est né. Il peut donc obtenir des papiers pour toute la famille. Vous arrivez donc en France le soir du réveillon de Noël avec vos parents et votre grand frère Eddy. Vous logez pendant près de 4 ans à l'hôtel d'Angleterre, pas très loin des Halles, où votre père a décroché un travail. Puis vous allez vous installer en banlieue parisienne, à Clichy-sous-Bois. Et lorsque vous emménagez dans ce premier appartement, ce n'est pas une table de salle à manger que votre père achète d'abord, mais un piano pour que la famille s'installe autour le soir et pour que la musique s'invite dans la maison.
C'est vrai, il était musicien votre père ?
Mais oui, mon père... Mon pauvre papa qui a sacrifié toute sa vie de passion pour la musique, pour l'art en général, s'est retrouvé à réceptionner des marchandises au hall la nuit, puis travaillant le jour et la nuit. Enfin bon, évidemment, sa salle, dès qu'il a eu un petit peu d'économie, enfin, il a, au lieu d'acheter une salle à manger, effectivement, dans ce fameux Clichy-sous-Bois, eh bien, il avait commandé un piano à paiement espacé. Ouais. Et donc, maman était désespérée parce qu'on a mangé sur le piano, quoi. Je veux dire, mais enfin, il faisait de la musique, il disait que c'était pour son âme. Et ça, je le comprends très bien.
Ben, la preuve, vous êtes là.
Sylvie Vartan, vous ne le savez pas encore, mais vous allez passer votre vie accoudé à un piano. Une chanson marque votre enfance en France, c'est Le Petit Cheval de Georges Brassens.
C'était un petit cheval blanc, tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière lui, devant.
Votre grand frère Eddy est lui aussi mélomane. Son domaine, c'est le jazz. Il abandonne même ses études de droit pour sa passion. Il passe par Europe 1, où il est programmateur.
C'est pas vrai.
Et oui.
Ah ouais, je savais pas.
Avant de rejoindre la maison de disques Decca.
Decca.
Decca. Ouais. L'un des premiers artistes dont il s'occupe s'appelle Francky Jordan.
Jordan.
Jordan, on dit.
Bah bon, on dit Jordan. Version...
Mais débat, Francky
alors.
Jordan.
Francky Jordan ou Francky Jordan, juge de paix.
Les deux vont.
Les deux vont, Philippe.
Voilà. Donc, bonne réponse de Sylvie Vartan.
Le chanteur doit sortir une chanson en duo avec une voix féminine. La chanteuse prévue pour ce duo se désiste et votre frère pense alors à vous. Vous avez 16 ans et demi et c'est ainsi que vous vous retrouvez dans le salon d'un hôtel particulier de la rue Beaujon à Paris en plein après-midi, loupant ainsi 2 heures de cours de maths.
C'était comment ce premier enregistrement? Vous en gardez quel souvenir?
Ah oui, d'abord, ça a été fait rapidement, comme tout ce que je fais d'ailleurs. Je dois être poussé par une espèce de feu en permanence et donc je suis sorti de l'école, on m'a transporté dans cet hôtel de la rue Beaujon. Effectivement, il y avait la directrice de la maison de disques était une dame très très bien, très chic, BCBG, avec des boucles d'oreilles et tout. Moi, je ne m'imaginais pas du tout cet univers-là. Et c'était un salon, en fait, aménagé avec des micros, et puis un technicien, mon frère, et puis...
Et vous avez enregistré comme ça?
Voilà,
genre... Mais en ayant répété la chanson?
Non,
même
rien
pas.
Du tout, même
comme
pas.
Ça.
Non. J'ai écouté, mon frère me dit, voilà, tu vas mettre ta voix dans les... Parce que Francky avait déjà enregistré, donc il y avait sa voix. Donc je ne faisais que les réponses.
Ouais.
Voilà, donc j'avais mon papier avec les paroles. Et puis malheureusement, je devais chanter avec une voix de tête, c'est-à-dire en falsetto, parce que
très,
ma voix
très
était beaucoup plus grave.
Ouais.
Et comme les tonalités avaient déjà été prises et que Francky avait déjà posé sa voix, il était hors de question de refaire tout l'enregistrement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai cette petite voix fluette qui a peut-être fait que ce disque est devenu un disque original et immédiatement un hit. Ouais.
Mais vous l'avez le
et
disque ?
Oui, bien sûr, ça s'appelle Panne d'essence. Et
voilà.
Je rentre à la maison.
Ça fait mal loin.
Je connais les garçons.
L'endroit est désert.
Je te vois bien venir.
Et il a tout pour plaire.
Il faut repartir.
Mais je n'ai plus d'essence.
Ça, je n'en crois.
La chanson fait son bonhomme de chemin et vous êtes invité avec Francky à venir la chanter dans l'émission Discorama. C'est votre toute première apparition à la télévision. Les 5 millions de personnes qui ont un poste vous découvrent et la chanson devient un succès. Sylvie Vartan, la machine s'emballe. Lorsque vous retournez au lycée, tous les regards sont braqués sur vous. Et il n'y a pas que vos camarades qui vous ont remarqué, la maison de disques aussi. Vous incarnez la fraîcheur, un souffle nouveau. Il n'est pas question de vous laisser filer. On vous offre un contrat pour un premier 45 tours. Vous êtes aussi invité à l'Olympia pour participer au Musicorama, une soirée musicale retransmise sur Europe 1 où vous chantez à nouveau avec Francky Jordan ou Jordan. Le directeur de l'Olympia, Bruno Cocatrix, vous repère et vous propose 3 semaines de représentation en levée de rideau pour la venue à Paris du célèbre rocker anglais Vince Taylor. Le 27 décembre, c'est la grande première. Vous vous produisez sur la scène mythique devant 2000 personnes pour chanter 4 chansons, dont une reprise d'Elvis Presley, Don't Be Cruel, qui devient en français Sois pas cruel.
Depuis
oh là là, ça fait une éternité que je n'ai pas entendu cette chanson.
Ma vie est monotone, tu sais où me trouver. Je t'en prie, téléphone, sois pas cruel.
Derrière le rideau, en coulisses, un chanteur est venu voir Vince Taylor et il est surpris par votre reprise plutôt culottée d'Elvis Presley.
Culottée, c'est le cas de le dire, oui.
Mais oui.
Mais je m'amusais beaucoup, je trouvais que c'était... J'adorais le rock, j'adorais Presley. Et sans aucune honte, sans aucun problème, j'ai accepté de chanter cette adaptation.
Mais là, il n'y a pas de quoi avoir honte.
Il vous observe, il entend le public crier votre prénom, ce chanteur. Vous le rencontrez brièvement à la sortie de scène, vous lui serrez la main. Le lendemain, lorsque vous arrivez dans votre loge pour votre deuxième soir, ce même chanteur vous a fait livrer un très joli bouquet de roses avec une carte signée de son nom de scène, Johnny. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là.
C'est quand même extraordinaire.
C'est un bon début.
Ouais. Ouais, on n'a même pas le temps de raconter ce que ça faisait d'être au lycée, au collège, après avoir eu ce succès. Sylvie Vartan, vous restez avec nous. On a encore plein de questions à vous poser. On va reprendre l'endroit où nous étions avec Lisa-Marie Marquez. Un grand merci. Culture Média continue.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Blandel.
Merci pour le regard. C'est le nouvel album Studio de Sylvie Vartan qui est avec nous dans ce studio. Guillaume Benesch, bonjour.
Bonjour Philippe. Bonjour.
J'ai presque envie de vous dire merci pour ce regard parce que vous allez nous parler de musique, mais sous un prisme et donc sous un regard bien particulier.
Absolument. Nous allons parler de rock'n'roll et de justice parce que certains musiciens ont beau préférer monter sur scène, nombre d'entre eux sont aussi montés à la barre et pour des raisons très variées. C'est ce que nous raconte l'avocat Fabrice Epstein, chroniqueur pour le magazine Rock and Folk, et qui sort en librairie l'ouvrage Rock and Roll Justice. Histoire d'argent, de droits d'auteur souvent, de sexe, de drogue, de séparation, tout y est passé. Ce livre, c'est l'histoire du rock vu par les tribunaux.
Alors quel genre d'affaires se retrouve en justice ?
Alors comme je vous le disais, principalement des affaires de droits d'auteur, et notamment de plagiat. Écoutez ce premier morceau.
He's so fine.
Oh là là.
Alors, il s'agit de Is So Fine des Chiffons, sorti en 1963. Maintenant, écoutez ceci. Et évidemment, le tube My Sweet Lord de George Harrison. Écoutez maintenant une version mixée de ces deux chansons simultanément en ralentissant la première et en accélérant la deuxième. Écoutez.
He's so fine.
Votre oreille particulièrement voilà, développée, Philippe ou Sylvie, sûrement.
Très fine,
c'est
hein.
Ça, reconnu les mêmes accords au début de ces deux titres. Pourtant, celui de George Harrison est sorti 7 ans après le premier. Et ce fut la plus grosse affaire judiciaire de sa carrière qui se conclura seulement en 1992. Harrison finira par reconnaître lui-même qu'il connaissait la première chanson. Et la conclusion du juge sera claire. Plagiat.
Et alors, ça s'est fini comment ?
Alors, l'histoire est absolument ubuesque. Le dernier manager des Beatles, le escroc d'ailleurs notoire, Alan Kane, qui conseillait George Harrison, va racheter le label propriétaire des droits de la musique des Chiffons, si la même société possède les droits des deux musiques, plus de problèmes de droit,
ah mais oui.
Plus de plagiat. Alors je vous passerai les détails financiers et la galère monumentale que ça a été. On restera sur cette déclaration de John Lennon, quelques semaines avant son assassinat en 1980 à Playboy, où il disait que George savait ce qu'il faisait, qu'il n'avait qu'à changer quelques mesures.
Dingue. Et on retrouve quoi d'autre alors comme que le plagiat pardon, dans ce livre ?
Alors par exemple, le droit d'utiliser le nom d'un groupe, tiens, comme celui-ci. Alors vous avez reconnu Pink Floyd avec évidemment Another Brick in the Wall, sorti en 1979. Groupe créé par le guitariste et chanteur Syd Barrett au milieu des années 60, remplacé à cause notamment de sa grosse consommation de LSD par David Gilmour. Ouais. Groupe ensuite mené par le bassiste Roger Waters qui partira en 85. Et j'en oublie beaucoup, mais bref, Pink Floyd, c'est un univers, c'est un ensemble d'artistes, mais c'est aussi un nom qui a suscité bien des émois, notamment à cause des nombreuses séparations des artistes du groupe, où chacun a tenté de le garder un peu pour lui, jusqu'à ce que Roger Waters, après avoir quitté le groupe, attaque David Gilmour et Nick Mason pour l'utilisation du nom du groupe, qui pour lui était créativement mort, musicalement fini. Alors il gagne au procès en première instance, il perd en appel, mais le juge tranchera. Pink Floyd ne peut pas mourir, Pink Floyd est éternel, le nom n'appartient à personne si ce n'est à son public, c'est très rock'n'roll.
Oui, mais alors qui a le droit de jouer sous le nom de Pink Floyd, Roger Waters ou David Gilmour ?
Ah bah absolument toute personne qui se sentirait légitime de pouvoir rejoindre le groupe, ce qui est assez fou.
Vas-y, on va monter un groupe.
Ouais, si
alors, maintenant on va parler d'un groupe que connaît bien Sylvie Vartan.
Ouais, des Beatles qui vont aussi avoir des recours à la justice. Je vais vous parler d'une histoire de pommes. En 68, les Beatles nomment leur société Apple Corps, idée venant tout simplement d'un tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pomme,
ouais.
Mais Apple, ça ne vous rappelle rien, Philippe ?
Bah évidemment.
Alors, en 76, Ronald Wayne, Steve Wozniak et Steve Jobs créent une société d'informatique nommée Apple Computer. Il ne faudra que 2 ans pour que la société des Beatles attaque celle de Steve Jobs, qui trouveront un accord financier en 81. Apple a le droit de garder son nom, d'avoir une pomme comme logo, mais attention, ils n'ont pas le droit d'avoir d'activité se rapportant à la musique. Et puis en 86, le premier Mac, le Macintosh, sort et il permet d'éditer notamment de la musique, voire même de brancher un instrument dessus. Autant vous dire que la compagnie des Beatles n'apprécie pas du tout. Apple paiera très cher sur le moment et le nouvel accord stipulera qu'ils ont le droit de fournir un service qui permet de produire ou d'écouter de la musique, mais attention de ne pas éditer de musique en support physique comme les CD, puisque c'était la nouvelle technologie de l'époque.
Alors il y a déjà Apple Music, mais l'iPod c'est un support physique.
Alors c'est là qu'en 2001, tout bascule, tout s'enflamme à nouveau avec la sortie du baladeur numérique d'Apple, Computer. Les années qui suivront seront vraiment nourries de discussions entre les deux interlocuteurs, finalement clôturées par Apple de Steve Jobs, qui tout simplement rachètera la marque pour un montant d'environ 500 millions de dollars à la société des Beatles.
Bagatelle.
Mais surtout qui paye maintenant une licence pour s'appeler Apple Records. Encore une affaire d'argent, de justice et puis bien sûr de musique quand même. Rock'n'Roll Justice de Fabric Epstein, c'est à retrouver aux éditions La Manufacture de Livres, c'est en librairie, et ça passionnera sans aucun doute les fous de rock qui nous écoutent.
Et les Beatles. Et Sylvie Vartan, dans ce livre dont on va parler dans quelques instants, Le tourbillon d'une vie, c'est signé Christian-Éric Casalo. C'est juste complètement dingue de vous voir avec les Beatles. Le concert en commun que vous avez donné, c'est juste fou.
On était. On ne pensait pas que ce concert deviendrait culte à ce point-là. Je veux dire, c'était. Parce qu'on était tous des teenagers.
Vous étiez des petits jeunes, ouais.
Oui, voilà. Les Beatles n'avaient pas encore explosé aux États-Unis.
Ils
étaient numéro 1 en Angleterre.
Ah, quand même. Ils vous ont fait quel effet ? D'un groupe extraordinaire ou d'un très bon groupe,
extraordinaire.
Comme vous avez vu.
Ah oui, oui, oui.
Déjà, vous sentiez que.
Ah oui, oui, c'était difficile de passer à côté.
Voilà. Sylvie Vartan et les Beatles, très très impressionnant. Culture Média continue, à tout de suite. Merci Guillaume Benesch.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
À deux pas de vous.
À deux pas de vous. Écrit par Clara Luciani, c'est sur le nouvel album de Sylvie Vartan qui s'appelle Merci pour le regard. Il y a également, vous avez une grosse actualité, Sylvie Vartan, parce qu'il y a 2 livres qui vous sont consacrés dans des genres très différents. D'abord, cette biographie Sylvie Vartan, Le tourbillon d'une vie, signé Christian et Eric Casalo.
C'est incroyable,
chez XO.
Ils ont eu comme détail.
Ils les ont eu par vous, c'est une biographie autorisée,
mais
c'est vous qui leur avez parlé. Comment ça s'est passé ?
Oui, mais tout est vrai, en fait, ils me l'ont soumise, effectivement. Mais j'étais étonnée par la Déjà par la grosseur, l'épaisseur, et par tous les détails.
Ça fait 400
et tous
pages.
Les faits, oui, c'est extraordinaire.
Mais attendez, vous ne leur aviez pas accordé d'entretien. Ils ont fait tout ça sans vous, rien qu'en allant voir des gens sans vous.
Oui, mais avec les articles, les critiques, les voyages qu'ils connaissaient.
Parce que le tourbillon d'une vie, c'est vraiment ça. Quel effet ça vous a fait de lire ces 400 pages qui vous sont consacrées?
Ça m'a donné le vertige, honnêtement. Pourtant, je l'ai vécu. Et je sais que ça m'a laissé, des souvenirs flamboyants et vraiment une ferveur incroyable au quotidien.
On ne peut pas se rendre compte de ce que c'était.
Ils le rendent très bien. On s'en rend compte quand on lit ce livre, en fait.
De 61 à 66, Louis Vartan, 5 années de folie. Vous enregistrez plus de 80 chansons, 20 45 tours, 5 albums. Le tourbillon est sans votre histoire d'amour avec Johnny.
Et 300 galas dans une année. C'est eux qui les répertorient. Et j'avoue que moi, je ne comptais jamais.
Mais est-ce que vous réalisiez ce qui vous arrivait? Parce que vous viviez, maintenant, il y a les réseaux sociaux.
On n'avait pas le temps de réaliser.
Non, mais quand même, vous vous mariez, vous avez une histoire d'amour avec un type,
c'est
une histoire
folle. Elle était multipliée par deux, forcément.
Trois, parce qu'il y avait les photographes tout le temps avec vous.
Oui, tout le temps.
Mais vous trouviez
ça devenait comme une famille. Ça devenait normal, c'était habituel. Et puis, souvent, ils étaient devenus amis. Et voilà, c'était une bande joyeuse.
Vous dites à un moment donné, la musique a cimenté notre couple, mais elle nous a aussi séparés. De quelle manière? Pourquoi la musique vous aurait séparés?
Elle nous a séparés parce que, je veux dire, on était tous les deux pris dans notre passion. On voyageait, on était séparés souvent. Alors, on se réunissait pour certaines tournées que l'on a fait ensemble, pour être ensemble, parce que c'est vrai qu'on était souvent...
Vous n'arriviez pas à vous voir.
À quatre lieux de l'un
et
de l'autre.
Je dois dire que ce livre retrouve parfois des papiers ou des livres de l'époque comme une autobiographie de Johnny qui n'était pas à l'eau de rose. Vous dites que son décès vous a touché plus que vous n'imaginiez.
Moi, ça m'a paru complètement irréel, surtout. Et puis, comme c'était comme une mise en scène, c'était doublement irréel. Enfin, c'était assez insupportable, oui. Je suis devenu amnésique. Enfin, j'étais complètement paralysé. C'était
dans un déni,
quelque chose d'irréel pour
un
moi.
Un déni de ce qui s'était passé.
Pardon.
De le sens de l'amnésie que vous donnez, comme un déni, comme si vous vouliez pas voir ce qui se passait.
Oui, je trouvais que c'était, je sais pas, c'était nauséabond. C'était impossible pour moi de réaliser ça.
Nauséabond parce que c'était trop ou parce qu'il y avait des gens qui étaient
là
trop, et qui auraient pas dû se trouver là.
Non, mais
à ce
moment-là. Les gens, c'était vraiment un coup de cœur. C'était merveilleux. Heureusement qu'ils étaient là pour rétablir. Et puis pour manifester leur amour, leur fidélité, et la ferveur et ce qu'ils ressentaient. Ça, c'était extrêmement touchant et vrai, sincère.
Il y a quelques semaines, il y avait un concert hommage à Johnny Hallyday à Paris-Bercy, qu'on a appelé maintenant Accor Arena. Vous n'y étiez pas? Vous n'étiez pas
invité?
Non,
j'étais en train de répéter mes chansons.
Bon, vous n'étiez pas invité ou vous ne vouliez pas y aller?
Non, mais ce n'était pas ma place, honnêtement.
Et puis, autre livre extrêmement personnel, signé de votre avocat qu'on connaît bien ici,
Roland
Pérez.
C'est le livre
autre livre
de Roland Pérez.
De Roland, ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. il raconte l'histoire d'un petit garçon. Et à ce moment-là, quand il raconte toute son histoire, vous ne le connaissez pas.
Non.
Vous pouvez le dire en deux mots, vous voulez que je résume l'histoire?
Résumer l'histoire, parce que c'est quand même une histoire assez incroyable.
Il est atteint d'une maladie très, très grave. On pense qu'il ne va jamais pouvoir marcher. Il est à quatre pattes. Il doit rester un an sans bouger. Et pour pouvoir tenir, sa mère achète une télévision et il s'éprend. Il y a, je ne sais pas quel mot. Il tombe en pamoison devant vous et votre talent. Et vous devenez son idole sans que vous le connaissiez. Et à la fin de la fin de la fin, il devient votre conseil, votre avocat.
Mon ami surtout.
Et vous n'avez jamais dit toute son histoire?
Non, il ne me l'avait jamais dit. Jusqu'au moment où on est devenu quand même beaucoup plus proche et vraiment amis. Et donc, il avait toujours cette discrétion et il n'avait pas envie de raconter cette histoire, je pense. Et puis, je pense que sa famille l'a aidé à surmonter tout ça aussi. Sa mère extraordinaire, qu'il décrit merveilleusement dans ce livre.
Incroyable.
C'était une femme, j'ai eu la chance de la connaître. Parce qu'honnêtement, des gens comme ça sont rares de nos jours. Et c'est un exemple de courage, de persévérance et d'amour. Un amour fou, quoi.
Roland Pérez est un amour fou pour vous, en
et
fait,
l'amour,
platonique.
C'est tout dans la vie, quand même.
Ma mère, Dieu, Sylvie Vartan, Roland Pérez, 10h55, c'est l'heure de la story de Marc-Antoine Lebret. Tous les jours, des personnalités viennent rencontrer notre invité. Ce matin, Sylvie Vartan, c'est Philippe Manœuvre qui passe vous voir.
Salut Philippe! Alors j'étais obligé de venir parce qu'entre Sylvie Vartan et ta coupe de cheveux, ce matin, c'est trop les 70s!
Oui, c'est vrai.
Mais attention, ce qui est super avec Sylvie Vartan, c'est qu'elle a su perdurer dans les 80s, les 90s, les 2000s et ça continue! En plus, ce qui est génial, c'est qu'elle a fait confiance à une nouvelle vague d'auteurs comme la grande Sophie, Joseph d'Anvers. Alors, j'ai aucune idée de qui c'est, mais ça sonne bien ! Rock'n'roll !
Nous, on sait qui c'est. Une chanteuse avec qui vous avez déjà fait un duo absolument tenu à passer. Vous reconnaissez sa voix, c'est Ariel Dombal.
Bonjour Philippe, bonjour Sylvie et bonjour à l'équipe de l'émission Bien fait pour vous. Hola Felipe, hola Silvia y hola los emisión por los vieros. Sylvie, j'ai appris que vous faisiez une tournée de concert et cela me met dans une joie infinie. Yo deseo no suriro para no explosado mi liftingo.
Oui.
Au revoir Sylvie et au revoir Philippe. Adios l'idole et adios l'idiot.
Et puis un autre chanteur voulait vous dire un mot.
Ouais, c'est Bruel. Ah, bah salut, voilà. C'est Patrick. Non, c'était juste pour dire que cette année, moi aussi, j'ai fait un duo avec Sylvie Vartan. Sinon, j'ai aussi fait un trio avec deux masseuses, mais rien à voir.
Oh.
No comment. Un chanteur aussi voulait vous dire un mot, plus qu'un chanteur, Booba.
Wesh, les filles, la forme, cousin.
Ouais.
Et toi, Sylvie, bien ma sister. Et la famille, vous connaissez le rappeur fourré à l'orange? C'est Maître Pims. Ok. Easy, elle a compris, Julien, merci. Mais, moi, je suis là pour dire gros, gros respect à Sylvie Vartan pour son 50e album. Ça fait 40 albums de plus que Wham. Et surtout, ça fait 50 de plus que tous les gagnants de The Voice réunis. Blablabla. Bon, par contre, je suis un peu vénère, Sylvie, parce que tu m'as pas contact pour un son ensemble. Tu vois, on aurait pu se faire un remix d'un de tes tubes, genre L'amour, c'est comme un gros, gros pet. Ça brûle, ça fait des trous de boulettes.
Oula,
c'est bien.
Vas-y,
oula.
Sylvie.
Oula.
Je te laisse réfléchir à ma proposition. On peut tout niquer, sister.
Easy. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebret. Merci à vous, Sylvie Vartan, d'être venu nous voir. Je rappelle ce titre. Merci pour le regard et merci pour votre présence. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On va parler de la série Doc sur Orelsan. Montre jamais ça à personne. Série assez extraordinaire, filmée par son frère, Clément Cotentin. Et on sera aussi avec la directrice générale de Media One. Ils seront là tous les deux, Justine Planchon. Et puis la chanteuse Nolwenn Leroy pour son nouvel album. Ça s'appelle La Cavale. J'aurais pas dû essayer de cavaler. Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous le programme.
Eh bien, on va faire un peu de pédagogie ce matin. On va se poser cette question. Et si la remise en question des genres n'était pas la catastrophe annoncée par certains. Alors on va voir tous ces termes qu'on entend aujourd'hui, transgenre, cisgenre, identité sexuelle flottante. On va se poser tranquillement avec le psychiatre Serge Effès pour y voir plus clair.
Et puis vous mangez salé ou pas?
Très très peu, le moins possible.
C'est bien. Ah
ben voilà, faut
faire Sylvie, le moins possible.
Oui, le sel c'est l'ennemi, c'est notre ennemi, un
moi
peu comme le sucre.
Ce qui est salé.
Il faut faire très attention.
Je ne suis pas sucré mais salé.
Alors il faut faire très attention parce que parfois on mange du sel et on ne le sait pas, notamment dans les plats industriels. Donc on va aller à la chasse au sel, Sylvie, si vous voulez venir avec nous.
Je ne sais pas si je vais écouter.
Oh, s'il vous plaît, moi je vous écoute tout le temps.
J'adore.
Vas-y,
tout ce qui est salé.
Va enchaîner après ça. Je respecte Sylvie Vartan, c'était notre invité, je respecte toujours l'invité. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1, salut.